Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Après la question du pouvoir d'achat avec Julien Damon et Mathieu Laine lundi, celle de la transition écologique avec Virginie Maris mardi, la question de l'autorité avec le général De Villiers, auteur de « Qu'est-ce qu'un chef ?» mercredi, et celle des inégalités hier avec les économistes Gaël Giraud et James Galbraith. On referme cette semaine d'analyse inspirée par le mouvement des Gilets jaunes et par la crise de régime, avec une réflexion autour de l'état de notre démocratie, du pouvoir d'achat à la remise en cause des institutions, dissolution de l'Assemblée, démission du président, changement de gouvernement, voici quelques-uns des appels en cours. Où allons-nous? Où va notre démocratie? Il a réfléchi au rôle de la philosophie face à la violence avec son confrère Marc Crépon aux éditions des Équateurs. Le philosophe Frédéric Worms, professeur à l'ENS, producteur sur France Culture de Matière à penser et auteur dernièrement de Les maladies chroniques de la démocratie, est notre invité. Bonjour.
Bonjour et merci de l'invitation.
Avec nous depuis midi, le metteur en scène Julien Gosselin. Il se confronte actuellement à la violence du monde à travers trois pièces réunies aux ateliers Berthier au Théâtre de l'Europe, et adapté de trois romans de l'américain Don DeLillo. Rebonjour Julien Gosselin.
Rebonjour.
Merci d'être resté avec nous. Gilets jaunes, Frédéric Worms, est-ce le symptôme pour vous d'une démocratie malade ou les prémices d'une rémission?
Je pense que c'est un tournant, effectivement, dans, j'espère, une seule des directions de la démocratie, une des dimensions fondamentales, mais qui commençait à aller mal, effectivement, dans le chronique, puisque je parle de maladie chronique, il y a des degrés, et il faut éviter que ça passe au-dessus d'un certain degré. Et je pense qu'on est à un tournant dans ce qu'on pourrait appeler la démocratie sociale. La question du social dans la démocratie et comment la démocratie peut et doit prendre en charge la justice sociale. Je dis qu'on est à un tournant parce que je pense on peut espérer qu'il s'agisse d'une prise en compte de ce problème devenu vraiment gravissime et que ça ne dérive pas vers d'autres. Et que si, moi j'ai l'espoir au fond qu'on puisse assister à une reprise de, alors moi j'irais presque la social-démocratie, même si c'est devenu une insulte pour beaucoup de gens, mais je ne le crois pas. En tout cas, dans la dimension sociale de la démocratie, c'est l'enjeu fondamental. Ne nous laissons pas distraire de cette question aujourd'hui.
Vous rappelez dans les maladies chroniques de la démocratie que nos démocraties sont presque par essence imparfaites, que ces mots ne sont pas nouveaux, ni passagers, ni exceptionnels, qu'on vit un mal chronique de nos démocraties, mais que parfois ça part vers la crise aiguë, avec Exactement. Un risque mortel. Est-ce qu'on en est là pour les institutions, pour les sujets vivants?
Je pense qu'on est sur un des baromètres de la démocratie. On n'en est pas loin. Mais en même temps, ça peut être un bon rappel, une crise. Ça peut être aussi un rappel qu'on a laissé une dimension de la démocratie se fragiliser. Et je pense qu'il faut, encore une fois, la voir comme cruciale dans la démocratie et voir qu'il y en a d'autres. Ce que j'appelle, moi, la maladie principale, c'est la violence intérieure entre les sujets dans une société politique. Les sociétés politiques doivent faire face à des dangers extérieurs. Il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des guerres. Mais elles ont aussi à affronter des conflits intérieurs. Et ce sont les plus difficiles à percevoir et les plus graves, parce que, et surtout en temps de crise extérieure et de menaces de guerre. D'ailleurs, les gens qui ne veulent pas de démocratie, ben, agitent toujours la guerre, parce que la sécurité peut venir écraser les tensions intérieures. Et là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que dans les violences intérieures, il y a les injustices sociales. Structurellement, les sociétés engendrent de l'injustice. Mais il y en a d'autres. Il peut y avoir aussi des discriminations de raciales, des discriminations nationales, des exclusions, des discriminations de genre, de sexe, etc. Ce à quoi il faut faire attention aujourd'hui, je crois que c'est avant tout une inflammation de l'injustice sociale. Et si on peut en saisir cette occasion pour vraiment faire repasser la question sociale au premier plan, c'est très important. Il ne faudrait pas que ça dérive vers d'autres thermomètres, vers d'autres voyants de notre tableau de bord démocratique, où il y a aussi des tensions. Et je pense que la démocratie représentative électorale est un enjeu fondamental parce qu'elle contient aussi un type de violence intérieure pour le pouvoir. Elle n'a jamais été suffisante. Et en même temps, il faut aujourd'hui l'améliorer, mais avant tout, je crois, avec ce voyant rouge ou jaune vif du social qui se rappelle à nos yeux, y compris au niveau européen, et surtout ne pas dériver vers d'autres facteurs, agiter le spectre de la pure violence ou le spectre de l'exclusion nationale ou nationaliste. Donc il faut à la fois prendre ça très au sérieux et ne pas mélanger les registres.
Julien Gosselin, je veux bien votre avis. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent aujourd'hui, qui tentent de qualifier ce moment. On peut citer Frédéric Lordon, Monsieur Nuit Debout, sur son blog, qui écrit « C'est tout un monde qui est en train de partir en morceaux. Le leur, qu'on ne tiendra pas pareil, dislocation avec du report de taxes ou des taux minorés. Bien content si les institutions politiques elles-mêmes ne sont pas prises dans l'effondrement général, car il ne s'agit pas d'un mouvement social, il s'agit d'un soulèvement. » On peut citer une autre parole, celle de Daniel Cohn-Bendit, Monsieur Mai 68, c'était sur France Inter, il disait « On n'est pas dans une période révolutionnaire, on est dans une période de tentation autoritaire. » Vous, comment vous qualifieriez ce moment? Comment vous le percevez? Comment vous le ressentez?
Moi, je peux vous parler simplement d'impressions personnelles. J'ai pas développé d'appareil théorique pour penser cette chose-là. Ce que je peux dire simplement, c'est que je trouve que peut-être on parle trop d'un moment, on parle trop d'un pic, et que cette chose-là, je vais vous raconter, le week-end dernier j'étais à Calais, où je travaillais avec des amateurs, et je dormais dans un endroit qui surplombait un rond-point, où étaient présents un grand nombre de gilets jaunes et un grand nombre de policiers aussi. Et j'ai vu des scènes d'une immense violence, mais... Si vous voulez, depuis que je travaille dans cette ville, depuis que j'y vis, je passe mon temps à dire que, typiquement, la crise des migrants, elle est couplée depuis des années et des années, voire des dizaines d'années, à une crise sociale, culturelle, parce que je pense que c'est difficile de détacher les deux éléments, qui est colossale. Et que tout ce que je peux raconter de mon expérience, c'est que quand je raconte ça à des gens qui ne connaissent pas ces gens-là qui aujourd'hui portent des gilets jaunes, qui ne vivent pas à leur côté, personne n'y croit. Ou du moins, tout le monde minore cette chose-là. Et tout le monde, évalue la chose à l'aune de problématiques, l'extrême droite, la violence, ou toute autre sorte de paravent qui me paraît évidemment questionnable, mais qui me paraît pas centrale dans cette question-là. Je crois qu'il y a un problème immense, social, profond, qui vient de cette France qu'on a appelée France périphérique, mais qui vient d'ailleurs de partout, peut-être en France, et que cette chose-là, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas d'avant-hier, ça fait des dizaines d'années que cette chose-là est présente.
Frédéric Worms.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quand on parle de pic, c'est évidemment parce qu'on n'a pas traité le problème avant et que c'est un problème de toute façon structurel. On ne peut imaginer une société sans risque et même sans réalité de l'injustice sociale. Et le problème, c'est que si on la laisse sans l'affronter, si on ne travaille pas ces maladies chroniques qui sont là, ça monte. Et le pic n'est que le révélateur, effectivement, de quelque chose de très profond. Ça fait très longtemps qu'on parle de crise dans tous les domaines, crise économique, crise sociale, crise européenne. En fait, le terme de crise devient un paravent parce que c'est des crise très longue, et donc c'est plus des crises. Parce qu'il faut réserver le terme de crise à des moments, effectivement, malgré tout, il y a des pics, mais en analysant le structurel et en réformant le structurel. Et là, je crois que vraiment, l'enjeu, il est vraiment de revenir au sentiment des limites. Alors moi, je vois effectivement qu'on appelle aux limites de la violence, et je pense qu'il y a des limites à la violence possible et légitime, même dans l'expression d'une colère qui est légitime. Mais il faudrait aussi revenir à la limite des injustices sociales et aux limites communes qu'on devrait pouvoir repenser et vraiment déplacer. Parce que pour faire baisser le pic, il faut augmenter le niveau de l'inacceptable, plutôt et augmenter le niveau de nos réponses aux injustices structurelles. Et ça, je crois que il faut le dire clairement, nous avons besoin aujourd'hui de limites aux inégalités, de limites au sentiment d'abandon et de limite à la non prise en charge de la détresse des uns et des autres.
Ça, c'est aussi ce que disent nos philosophes. Vous vous êtes beaucoup penché sur cette question du rapport de la philosophie à la violence à travers Weber notamment, Hobbes, Machiavel. On peut penser à Sartre qui avait aussi engendré une grande réflexion à ce sujet-là. Pour eux, quelle violence légitime ou que faire quand la violence, pas simplement matérielle évidemment, mais aussi politique, sociale, symbolique, surgit au sein même d'une démocratie?
La question, c'est évidemment que il y a des violences ponctuelles auxquelles on peut s'opposer. Il peut y avoir des dictateurs, et là, il faut vraiment s'y opposer clairement. Certains pays sont en train de dériver dans la dictature. Et là, je crois qu'il faut vraiment penser à des actions extrêmes et à une résistance effective. Dans les pays qui ont des degrés de démocratie, je ne dis pas qu'ils sont des démocraties, ça ne veut rien dire, mais qui ont atteint des paliers de démocratie, et où il y a quand même des violences structurelles. Il faut parler de violence structurelle. Il y a des injustices structurelles. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut à chaque fois tout renverser pour essayer de changer la structure de la société ? Moi, je crois qu'il faut admettre l'existence de violences structurelles et pourtant de mesures par degré. De mesures par degré, mais qui sont fondamentales. Et je crois vraiment que la question des impôts est ici centrale, c'est-à-dire la distinction entre les pauvres et les riches, la redistribution est absolument centrale, mais l'impôt est un processus de limite. L'impôt n'est pas évidemment la révolution du structurel. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait contre la violence structurelle ? Il y a eu au XXe siècle des personnes qui ont dénoncé des violences structurelles et qui pourtant ont appelé à la non-violence. Je pense à Gandhi, Martin Luther King et quelques autres. Ils savaient, par exemple, que le racisme avait une dimension structurelle, ou Mandela. Et pourtant, ils appelaient à des actions non-violentes. Moi, je ne suis pas pour la non-violence, forcément, en tout cas pas dans tous les cas. Je pense qu'il y a de la légitime défense dans certains cas. Je ne suis pas non plus pour limiter la violence, mais je pense vraiment qu'il faut à la fois dire, comme Sartre le disait, comme les marxistes l'ont dit à un certain moment, qu'il y a des injustices structurelles, et pourtant qu'il faut les traiter par des progrès profonds, des paliers réels, et notamment une redistribution très forte.
Aujourd'hui, il semblerait que ce ne soit pas seulement le corps social qui soit affecté, Frédéric Vomps, mais aussi le lien entre nous. C'est ce qu'évoquait Julien Gosselin, et c'est ce que dit également le député de la France Insoumise, François Ruffin.
Le sujet, c'est pas la taxe sur le gasoil, c'est de commencer à avoir une victoire quelque part. Une victoire qui fait que ce peuple se redresse, qui prend confiance en lui, que la force va à la force, la volonté va à la volonté, et la victoire va à la victoire. Quand on est à Paris, on est à côté des lieux de pouvoir. Vous savez, les gens de mon coin, quand ils veulent venir toucher un lieu de pouvoir, il faut qu'ils bloquent tout leur samedi, qu'ils payent 15,50€ de car, et ça leur fait mal dans leur porte-monnaie pour la fin du mois. Vous, vous êtes à côté. Tous les soirs, vous pouvez aller faire des apéros Facebook, vos 20 shows, devant le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, devant l'Élysée. Ça, vous pouvez le faire tous les soirs. Vous pouvez aller faire des manifs tous à 8 qui patronisent le blocage en Paris. Ça, vous pouvez le faire. Vous êtes à proximité des lieux de pouvoir. Ce qui n'est pas le cas pour toute la province qui est condamnée à s'auto-bloquer aujourd'hui sur les ronds-points.
Il y a la question de l'éloignement, de la proximité ou de l'éloignement, mais aussi celle de la représentativité qui va avec. La jeune assemblée qui, il y a un an, portait en elle, pour certains, la promesse d'un renouvellement avec 424 nouveaux députés sur 577, semble aujourd'hui complètement déconnectée, incapable de canaliser cette colère actuelle, ni même de la comprendre, ni même de relayer les revendications des Gilets jaunes. Cette crise de légitimité, est-ce qu'elle souligne un renouvellement en trompe-l'œil, loin des préoccupations de la société civile qu'elle était censée incarner ? De quoi souffre cette représentation pour vous, Julien Gosselin ?
Peut-être, encore une fois, tout est question de degré, mais je crois que on ne n'imagine pas suffisamment la violence, la puissance de cette violence sociale. J'entendais justement il y a peu de temps à la radio quelqu'un parler qui racontait qu'il avait une femme, qui racontait qu'elle avait un métier, qu'elle avait un mari qui travaillait et qui pourtant allait au Resto du Cœur. Je pense que on ne perçoit pas, on n'imagine pas le nombre de gens qui vivent ces situations-là. Et si vous voulez, on les présente souvent comme une sorte de petite pastille de dureté à l'intérieur d'une démocratie qui se porte au fond plutôt bien. Et je crois, moi, qu'il y a une maladie qui est beaucoup plus profonde et que le nombre de gens qui vivent ce genre de situation, ça paraît une banalité de le dire peut-être, mais que le nombre de gens qui vivent ce genre de situation est gigantesque. Et que la détresse, si vous voulez, sociale, presque le mot détresse se serait faux, parce qu'il appartiendrait à un phénomène de crise, un phénomène momentané. Et je crois que c'est une détresse, alors si on appelle ça détresse, c'est une détresse sur la longueur. On a lâché des gens, des millions de gens, depuis des dizaines d'années, et aujourd'hui, à la faveur d'un problème d'impôt, on s'étonne que ces gens se lèvent. Je ne m'en étonne, mais alors absolument pas.
Mais la question reste, comment on y répond aujourd'hui ?
Je crois que vous posiez la question en partant de l'Assemblée. Il ne faut pas non plus la caricaturer. C'est une majorité qu'on a idéalisée parce qu'elle était faite de non-professionnels de la politique. En même temps, elle avait un programme. c'était celui de La République En Marche, qui est un programme de démocratie libérale, et on peut pas forcément être contre le principe de cette majorité et de son programme. Moi, ce qui me frappe et ce qui me désole, c'est qu'il n'y ait plus d'alternative à côté, si vous voulez. C'est-à-dire que, en réalité, ce programme libéral est un programme possible dans une démocratie. On sait bien qu'il faut que les conflits sociaux s'expriment aussi dans des luttes entre des partis, des positions politiques. Je crois que ce qui nous manque vraiment, c'est un très fort mouvement qui fasse pour la notion d'égalité ce que le parti d'Emmanuel Macron a fait sur la notion de liberté. On a plus véritablement cette alternative. Et il faut pas être dans l'abstraction. C'est vrai que l'égalité, c'est comme la liberté, elle ne sera jamais parfaite. Mais il y a un moment où elle doit être portée par un certain nombre de mesures, et c'est vrai qu'on en a un peu assez des mesures parfaitement symboliques. La gauche française s'est contentée de quelques mesures symboliques sans les pousser jusqu'au bout, sur par exemple les 35 heures ou des choses comme ça, qui sont des mesures, je pense, très fortes, mais qui n'ont pas été dans le cœur de la vie sociale des gens. Moi, je suis très frappé du fait, je travaille un peu sur l'éthique médicale, que l'école s'est fragilisée, que le dernier lieu d'attachement à républicain, c'est l'hôpital, c'est la santé, c'est le social. Ça n'est pas un hasard, et d'ailleurs, il faut y tenir absolument. Il faut aussi montrer que nous sommes... encore une société solidaire où les gens qui sont malades sont quand même soignés. Mais il faut en venir à être très malade pour être pris en charge par la société dans son ensemble. Et il faudrait maintenant qu'on puisse se réoccuper de l'accompagnement scolaire, social, juridique, et de tous ces aspects. Mais vraiment très concret, avec des paliers très précis et avec une social-démocratie qui est quelque chose de radical dans des mesures précises. Pas dans l'idée qu'on va tout changer, parce que la violence structurelle, en plus au niveau européen et mondial, faudrait peut-être aussi parler du contexte mondial, a quand même des beaux jours devant elle. Donc faisons état de limites communes infranchissables.
Alors juste sur ce point-là, et vous nous direz quelles sont peut-être vos limites, celles que vous envisagez, quel sens de l'État et quel sens de la représentation face à la contestation qui peut être un moteur même assez français d'émancipation.
Bien sûr.
Quelle a été la réponse du gouvernement? Est-ce que ça a été la bonne? Surtout, on écoute Édouard Philippe.
Lucidité d'abord sur la situation d'extrême tension que traverse notre pays. Des tensions qui nous ont conduits à la conclusion qu'aucune taxe ne méritait de mettre en danger la paix civile. Comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, nous avons donc décidé, avec le président de la République, de renoncer aux mesures fiscales concernant le prix des carburants et les prix de l'énergie qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Le Sénat ayant voté la suppression de ces taxes dans le projet de loi de finances 2019, elles ne seront pas réintroduites. Lucidité ensuite.
La lucidité, c'est vous qui allez l'incarner, Frédéric Worms. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger la République. C'est la réponse d'Édouard Philippe. Il faut la République et, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait un autre mot, la vie ensemble. Bref, ce choix du gouvernement, cette décision qu'il a prise, est-ce que ça relève pour vous, puisque vous nous parliez tout à l'heure d'éthique, plutôt d'une éthique de conviction ou de responsabilité?
Alors, c'est amusant que vous parliez de lucidité. Je reviens d'un colloque qui était un hommage à un très grand philosophe spécialiste de la politique internationale, Pierre Asner, et je le caractérisais par sa lucidité devant le négatif, devant les passions négatives en particulier. Et c'était lui-même un ancien réfugié politique et la violence ne le surprenait pas, y compris le fait que devant des réfugiés, on ne soit pas saisi uniquement de compassion, mais aussi de repli, de peur, et que ça puisse être manipulé pour engendrer les haines. Donc la lucidité est effectivement très très importante. Évidemment, je pense que la paix civile est le premier bien. Et il faut que tout le monde le préserve. Mais la lucidité, ce serait aussi de ne pas faire de mélange et de presque de chantage sur les problèmes. Moi, il y a une chose qui me choque, je suis pas le seul, et aujourd'hui, je pense qu'on peut assister à un tournant positif, c'est effectivement de jouer l'écologie, en un certain sens, au détriment du social. Je crois que ce serait l'occasion vraiment de dire... Moi, j'hésiterais même pas à dire, ce sera polémique et ce sera bien d'en discuter, que le social doit venir avant l'écologique. Et non pas après, et pas seulement au titre de la fin du mois avant la fin du monde, mais pour des raisons de principe. Parce que les conflits entre les humains viennent en premier et la destruction de la planète ne sera pas réglée tant qu'on ne règle pas les conflits entre les humains au niveau national, international et au-delà. Enfin, mondial, on pourrait dire, parce que cette injustice sociale, passe avant, pas seulement pour des raisons d'urgence de fin de mois. On dit la fin de mois et la fin du monde, mais pour des raisons de principe. C'est-à-dire que le sentiment d'injustice vient en premier. Si on nous dit de ne pas détruire la planète, on va dire oui, mais les grandes entreprises, etc. Donc on a raison. Donc moi, lucidité, oui, mais alors remettons les choses sur le fond. Ne disons pas c'est juste une taxe, parce qu'une taxe, c'est effectivement le cœur du problème social, le cœur du lien social, de la redistribution sur le plan de la justice sociale. On peut se réjouir que la question sociale revienne au premier plan, moi je le dis clairement.
Mais tout est connecté.
Toute la manière, c'est comment la démocratie va la traiter. Tout est connecté, mais.
C'est ce que disait aussi Julien Gossin, c'est-à-dire qu'entre la question migratoire, la question écologique, la question sociale.
Mais c'est pas entièrement vrai, parce que ce tout est connecté est aussi donne aussi un sentiment d'impuissance et de vertige. Je crois que oui, tout est connecté, mais il y a quand même des ordres à distinguer et des mesures précises à mettre en avant. Et je crois vraiment qu'il faut à la fois connecter et distinguer. Avec le rôle du politique, vous parliez du politique, c'est aussi de traiter les problèmes séparément, de ne pas tout mélanger, d'avoir des institutions diverses qui les traitent, à un moment des grands points de rassemblement démocratique, républicain, pour traiter de telles questions, de cette question-là. Et pas de, justement pas de ne tout mélanger. Dans le monde, peut-être que tout va mal, comme disent certains, mais traitons chaque problème pour lui-même, avec les gens compétents et les représentants légitimes.
Cette question de l'éthique, Julien Gosselin, Don DeLillo se la pose aussi dans ses écrits, dans ses romans. Je pensais à cette phrase qui est dite durant la pièce dans Les Noms, la troisième partie. C'est intéressant comment les Américains préfèrent toujours la stratégie au principe tout en se pensant toujours innocents. Est-ce que ça, c'est pas une métaphore qui vaut pour beaucoup de gouvernants?
Ah, c'est pas mal, hein, comme phrase. Je sais pas, moi je suis je trouve qu'on vit peut-être je sais pas si on vit un tournant à l'intérieur de la question de la violence. Par contre, je pense qu'on vit un tournant à la question de la manière dont on parle de la politique aujourd'hui. Le rapport à que d'ailleurs beaucoup de médias, et c'est pas, encore une fois, c'est pas pour critiquer les médias, parce que je pense que
ils sont fondamentaux,
mais le rapport d'analyse de la communication qu'on a mis en place depuis des années, contrairement à l'analyse du fond, je trouve que cette chose-là arrive aujourd'hui à une limite manifeste. Et que nous participons tous, et je me mets dedans aussi, hein, nous participons tous à l'idée que les problèmes éthiques sont mis au second plan après des problèmes, on va dire, de symboles, des problèmes de mesures phares, des problèmes d'image. Et que cette chose-là, je trouve qu'on la constate aujourd'hui. Et quand j'entends les ministres aujourd'hui répondre à des interviews, les responsables politiques parler, je trouve que je sens, pardon, je le dis de manière assez radicale, mais j'entends le vide. J'entends le vide parce que leurs réponses ne peuvent plus aujourd'hui correspondre à des problèmes de signes, elles doivent correspondre à des problèmes de fond. Et qu'ils ont oublié de répondre aux questions de fond. Ils ne savent plus le faire.
Frédéric Vams.
Oui, moi je pense que cette question est fondamentale, mais j'ajouterais un autre danger. Il y a ce danger du temps médiatico-politique qui amène à donner des signaux, etc. Et les gens, effectivement, une chose qu'on entend beaucoup, et à mon avis ça dit quelque chose de très profond, c'est qu'ils nous prennent pour des imbéciles. C'est-à-dire, en réalité, les signaux, tout le monde sait que ça masque un vrai problème de fond. Et d'ailleurs, je pense que les citoyens et les citoyennes françaises et français sont prêts à reconnaître qu'il y a des problèmes de fond. On le voit sur les questions d'éthique médicale. Quand on explique bien aux gens pourquoi tel ou tel traitement est trop cher pour la sécurité sociale, si du moins l'ensemble les mesures, on voit qu'il y a un sentiment de justice dans l'ensemble, mais qu'il y a des limites, bien les gens le comprennent. C'est quand on leur dit, bah, il n'y a plus d'argent, tout court, sans explication, c'est inacceptable. Et donc, il y a un vrai problème de cette communication. Mais l'autre danger, qui pour moi n'est pas moins grave, peut-être même encore plus aujourd'hui, mais solidairement, et pour lesquels toutes nos institutions d'enseignement, de culture, de médias sont fondamentales, c'est le danger, je dirais pour résumer, des réseaux sociaux. C'est-à-dire de cette ultra-communication sectorisée et sectarisée qui va jeter de l'huile sur le feu en allant à l'extrême. C'est quoi l'extrême? C'est de dire justement de tout mélanger. Un homme politique a fait une erreur, tous les hommes politiques sont pourris. Une mesure politique est injuste, la politique est injuste. Un intellectuel dit des conneries, vous me permettrez, on ne peut plus écouter personne. Je pense que ces réseaux sociaux qui font une communication tubulaire et sont vraiment notre vrai danger. Comment reconstruire une culture, c'est-à-dire des questions communes et un discours commun? Si autour de ces ronds-points, de ces lieux, se reconstitue du débat, comme vous avez cité Nuit Debout à un moment donné, ça a été l'utopie de Nuit Debout aussi, ce serait très bien. Là, malheureusement, je suis un peu sceptique parce que il y a cette emprise du réseau social, de la communication latérale. Comment reconstruire un vrai lieu commun? Je pense qu'on ne se passera pas d'institutions, peut-être dans des théâtres, dans des universités, mais il en faut plus d'un. Le Parlement ne suffira pas, mais j'ai peur que la rue, aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qu'il faut diagnostiquer, la rue, malheureusement, répond aussi à des petits téléphones qui connectent des messages qui ne communiquent plus.
Oui, on pourrait dire que les réseaux sociaux font tomber aussi les barrières, mais c'est ce que souligne l'historien.
Pour les maladies chroniques de la démocratie, ouais. C'est absolument, c'est à mon avis, un des mots. Il nous faudra 10 ans peut-être tous ensemble pour comprendre ce qui se passe.
Ce que dit aussi l'historien du droit, Jacques de Saint-Victor, sur cette remise en cause de la représentativité, par quoi la remplacer, la démocratie directe, certains en rêvent peut-être, pour lui c'est un rêve dangereux. Il s'inquiète de cette nouvelle rhétorique anti-politique qui n'est pas un simple discours à politique. France Culture avec nos invités, les philosophes, le philosophe Frédéric Worms et le metteur en scène
peut-être
Julien Gosselin.
Les deux philosophes peut-être et metteurs en scène.
Et metteurs en scène, il est 13h22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Allons voir un peu du côté des limites et des remèdes avec, pour commencer, ces mots de l'historien Gérard Noiriel. Il était ce matin l'invité de Guillaume Herner. La violence, moyen qu'utilisent certains quand ils n'ont plus les mots. Écoutez.
Si on replace dans l'histoire de France ce qu'on appelle aujourd'hui les violences, on voit très bien qu'il y a une évolution et qu'on est dans une société beaucoup plus pacifique. J'entendais par exemple sur une chaîne télévision quelqu'un parler de carnage à propos de ce qui s'est passé dimanche. Il y a eu aucune victime directement par les forces de l'ordre, il y a eu des dégradations matérielles, c'est pas pour les justifier, mais carnage, ça quand même, ça évoque des choses bien plus violentes avec beaucoup plus de morts, même si vous prenez, je sais pas encore, la manifestation des travailleurs algériens le 17 octobre 61, hein, vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de victimes. Et puis si on remonte dans le temps, eh bien, on se rend compte que les mouvements sociaux ont généré des formes de violence beaucoup plus fortes, des deux côtés d'ailleurs. Les grandes grèves de 47-48, ça a fait des dizaines de morts.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est qu'on avait oublié ce que pouvait être une lutte sociale.
Oui, je pense que voilà, la violence, surtout quand on a affaire à des gens qui se sentent exclus, humiliés, qui n'ont pas de possibilité aussi de s'exprimer via le langage ou via les formes d'art, enfin des formes pacifiques d'expression, forcément, la violence physique peut ressurgir, surtout dans des mouvements qui ne sont pas encadrés, où il n'y a pas de discipline, où il n'y a pas eu un travail de politisation, c'est ce qu'on constate aujourd'hui.
Alors sur la question de l'encadrement, on peut juste évoquer l'absence des corps intermédiaires qui payent aussi le prix peut-être de leurs échecs successifs, l'absence de toute forme de médiation qui ont fragilisé ce dialogue à réactiver. Et sur cette question de la culture, Julien Gosselin, Frédéric Worms, est-ce que cette violence est aussi pour vous le signe d'un appauvrissement culturel, d'une culture politique populaire qui disparaît, d'une culture qui élève, qui se ferait plus absente face à une culture qui divertit?
Je ne sais pas si le schisme s'opère au niveau d'une culture qui élève et d'une culture qui divertit. Par contre, j'ai l'impression que, si vous voulez, par exemple, sur les Gilets jaunes, on leur reproche d'être raciste, d'être d'extrême droite. Et en même temps, ce que je vois constamment à la télévision, ce sont des éditorialistes qui proposent des théories qui sont celles-là. Constamment. Donc, je trouve ça un peu facile de reprocher à des gens d'avoir des pensées qui sont constamment véhiculées. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression peut-être que la différence ne se fait pas entre le divertissement et la haute culture, disons, mais que peut-être que si on parlait aux gens constamment de manière plus intelligente, plus construite, un peu moins violente, peut-être que alors on pourrait développer une autre société.
Frédéric Worms.
Oui, moi je pense surtout qu'il n'y a jamais de violence pure. Bien sûr, il y a des actes qu'il faut interdire, des actes, et puis il y a des actes qui s'en prennent aux personnes, et puis il y a de la violence physique.
À ce niveau-là, dites-nous juste quelles sont les limites pour vous, du coup, celles que vous évoquiez.
Très clairement que les appels au meurtre, les appels à certains types de transgressions, y compris de lieux symboliques, de lieux de préservation du sens commun, sont tout à fait inacceptables. Je pense qu'il y a quand même en France une culture de la violence maîtrisée qui a pris du temps à se construire et qui effectivement, les corps intermédiaires ont bien maîtrisé. Mais ce que je pense très important, donc je pense, oui, moi je suis assez banal là-dessus, je n'ai pas de discours. Par contre, le point très important que Julien Gosselin vient aussi de souligner, c'est qu'il n'y a pas de violence physique pure, il y a toujours un discours autour. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui pour moi autour du mouvement des Gilets jaunes, c'est quel est le discours dans cette polyphonie, un peu cacophonique, mais qui est fondamental, parce qu'il y a ce moment de cacophonie qui est très important. Pour moi, il n'y a pas un unanimisme, sauf dans un refus de certaines choses. De même que dans les grandes manifestations du 11 janvier, il n'y avait pas d'unanimité, mais un refus du terrorisme. Je pense qu'il y a des refus communs en France, mais appuyons-nous dessus. Par contre, dedans, il y a une cacophonie, il y a une diversité. Quel est le discours qui va gagner? Eh bien, comme Julien Gosselin, je pense, moi, le vrai problème, ce sont les manipulateurs par des discours ultra-violents, y compris racistes, qui cherchent à profiter de cette cacophonie. Il faut donc construire un discours qui montre quels sont les problèmes derrière ces refus et comment on peut les affronter par des institutions et des mesures. Parce que c'est possible. La France, comme toutes les démocraties, l'a toujours fait. Quand il y a, par exemple, un scandale d'abus sexuel, voilà, il y a des lois qui viennent et finalement, ça va pas abolir la violence machiste, mais ça va quand même être un progrès. Donc là, je crois qu'il faut lutter pour qu'un discours précis prenne le relais de cette violence et non pas les discours ultra-violents qui, en effet, sont là. Moi, je pense que, en effet, certains éditorialistes sont, et certains idéologues aujourd'hui ultra-racistes sont beaucoup plus condamnables que quelques paroles, certes extrêmement condamnable, donc le racisme et l'appel à la haine fait évidemment partie des limites, mais surtout construisons le discours contre notre discours. La violence pure n'existe pas, il y a une guerre des discours.
Et quels sont les espaces aussi pour cela? Quelles sont les nouvelles formes d'engagement des intellectuels, des journalistes, des artistes? L'un de vos comédiens dans l'émission de Marc Weitzman, Signe des temps, dimanche dernier, Denis Herrier, disait qu'il était très fier de ce qu'il faisait en participant notamment à ces pièces que vous mettez en scène, qu'il croyait, lui, au pouvoir de l'art, mais qu'il fallait être quand même lucide. Que vous étiez tout petit, extrêmement peu, face aujourd'hui aussi à ces grands discours et à la manière dont ils se répandent, et notamment à travers les millions de vues d'une vidéo par rapport au nombre de personnes qui vont à un spectacle aujourd'hui.
Oui, mais j'ai peu de choses à ajouter à ça. Évidemment, on est petit. Faut-il arrêter de se battre parce qu'on est petit? Je crois pas. Mais effectivement, si vous voulez, j'ai longtemps eu du mal à croire à l'idée que la culture était, l'art, disons, plutôt que la culture était un mode de rassemblement citoyen. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même réaffirmer à travers cette crise-là que les questions d'éducation, que les questions de culture, même si moi j'ai du mal toujours à les relier l'une à l'autre, mais je pense que même prises séparément, elles ont une valeur aujourd'hui, mais fondamentale, le mot est faible.
Et puis surtout, il y a un conflit dans la culture aujourd'hui. On assiste aussi à une revendication d'identitarisme culturel. On assiste aussi à des discours culturels qui manipulent ces violences. Donc, il faut pas hésiter à le dire que, heureusement, qu'il y a encore des discours et des arts créatifs, d'ailleurs qui font l'objet dans certains pays d'une répression. On peut craindre pour le Brésil, on peut craindre pour la Russie, ça fait longtemps. Et donc, ça prouve qu'il y a un enjeu. Suivons toujours ce que font les tyrans. Et ils nous disent de façon très précise ce qui est important. Et des gens comme nous, tous peut-être ici, dans certains pays, nous ne pourrions pas parler. Ça veut donc dire qu'il faut continuer. Ça veut dire que ça gêne. C'est le caillou dans la chaussure. La culture ne se réduit pas à une essence et à une identité. La culture, ce sont des créations. Ça peut énerver certains idéologues d'aujourd'hui. La question des intermittents, etc. En réalité, c'est eux qui nous montrent à quel point nous ne devons pas céder.
Merci beaucoup, Frédéric Vamps, d'être passé autour de cette grande table. Un grand merci à vous, Julien Gosselin, joueur, Mao 2, les noms d'après Don DeLillo. Votre mise en scène est à voir aux ateliers Berthier, théâtre de l'Odéon, théâtre de l'Europe en ce moment, avec le festival d'automne. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission. À Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées. À Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture, avec l'aide précieuse, très précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Audrey Guélil. Je vous souhaite un très bon week-end et vous dis rendez-vous lundi à midi.